Soir Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorcil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 5 minutes, notre cours d'anglais. En attendant, un résumé des principales nouvelles du monde. Attentat suicide de Boko Haram au Niger. 4 hommes ont essayé de se faire exploser alors qu'ils tentaient une incursion dans la région d'Ifa. Les forces de défense les ont neutralisés, mais les éclats des explosifs ont tué 2 militaires et blessé 3 autres.
Ce matin, effectivement, il y a eu des éléments de Boko Haram qui ont été abattus et dont les charges ont explosé. Donc, il y a 2 de nos hommes qui sont tombés, qui sont morts, et puis il y en a quelques-uns qui sont blessés par les éclats. Mais en tout cas, aucun kamikaze n'a atteint son objectif.
Karijo Mahamadou, ministre de la Défense du Niger. La Fédération internationale des droits de l'homme a appelé aujourd'hui à un scrutin apaisé à 4 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Outre la FIDH, le texte a été paraffé notamment par Human Rights Watch, la Convention de la Société civile ivoirienne, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et le Mouvement ivoirien des droits humains. La situation à Brazzaville est revenue à un calme précaire ce mercredi après une interpellation de dirigeants d'opposition et de nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et manifestants opposés au référendum de dimanche qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Selon les autorités, 4 personnes ont été tuées dans des violences mardi à Brazzaville et à Pointe-Noire, capitale économique du Congo dans le sud du pays. Les leaders de l'opposition congolaise ont appelé aujourd'hui l'armée à cesser de tirer sur les militants et à les laisser s'exprimer librement sur le projet de constitution initié par le gouvernement. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a entamé mercredi une visite d'État de 2 jours en France. Ibeka, qui est accompagné d'une forte délégation ministérielle, a eu un tête-à-tête avec son homologue français François Hollande. Séga Diarra est un confrère de Mali Actu.
Demain, le président Ibeka animera une conférence pour le développement du nord du Mali au niveau de l'OCDE. Et pour l'occasion, il sera entouré donc des différents protagonistes, notamment les différents groupes armés, les représentants des différents groupes armés du nord du Mali, pour parler du développement de cette région-là. Et à cette même occasion, la France mettra donc 300 millions d'euros pour financer le développement sous forme de prêts pour une période de 2015 à 2017. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette annonce sera faite à l'occasion de la grande conférence pour la reconstruction et la relance du Mali au siège de l'OCDE.
Le gouvernement soudanais a annoncé ce mercredi avoir accepté une invitation de l'Union africaine à participer à des négociations de paix avec les rebelles du mouvement de libération du Soudan, SPLMN, à Addis Abeba le mois prochain. Jean-Roger Bion.
Cette invitation intervient au moment où le Soudan redouble d'efforts pour convaincre le SPLMN et les rebelles dans la région du Darfour de participer à un dialogue national destiné à résoudre les problèmes économiques et insurrectionnels qui minent le pays. De précédentes négociations organisées l'année dernière n'avaient pas donné de résultats. Le SPLMN combat depuis 2011 les forces de Khartoum dans les états du Kordofan Sud et du Nil Bleu, frontalier du Soudan du Sud. Le mouvement n'a pas indiqué s'il comptait participer aux discussions.
4 Israéliens soupçonnés d'avoir participé au lynchage d'un demandeur d'asile érythréen, pris lundi par erreur pour l'auteur d'un attentat dans le sud d'Israël, ont été arrêtés aujourd'hui, a annoncé la police. Selon la radio publique, 2 des 4 suspects sont des membres de l'administration pénitentiaire. Le premier tour des élections législatives en Égypte, organisé dimanche et lundi dans la moitié des provinces du pays, a été marqué par un taux de participation faible de 26,5%, alors que ce scrutin est joué d'avance, croit-on, en faveur du président Abdel Fattah al-Sissi. Ici aux États-Unis, le vice-président Joe Biden ne sera pas dans la course à la présidence. Il a fait la déclaration ce matin à la Maison-Blanche, mettant ainsi fin à un suspense de plusieurs mois. Chez les Républicains, le milliardaire Donald Trump reste en tête de la course, suivi de l'ancien neurochirurgien Ben Carson. Un nouveau sondage, Washington Post ABC News, donne 32% d'intention de vote à Donald Trump pour les primaires républicaines, soit une légère baisse de 1% par rapport au mois dernier. Ben Carson, lui, passe de 20 à 22%. Le sénateur Marco Rubio arrive en troisième position. Voilà pour ce bulletin d'information. Ici, Chérubin Dorcil, à Washington.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir, chers auditrices, auditeurs de VOA Afrique, ici à Washington depuis le studio 10, c'est Eric Manilakiza avec vous. Retour sur le Congo où la situation à Brazzaville était revenue au calme cet après-midi après la brève interpellation de dirigeants d'opposition et de nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et manifestants opposés au référendum de dimanche. La nouvelle constitution permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer deux mandats illimités. Le FROCAD dénonce un coup d'État constitutionnel. Selon les autorités, 4 personnes au moins ont été tuées dans les violences hier mardi à Brazzaville et à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, dans le sud du pays. Paul-Marie Mpuele, coordinateur du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD, c'est l'opposition, a contesté ces chiffres. Il a aujourd'hui avancé un bilan d'une vingtaine de morts. Ce matin, des groupes de quelques dizaines de jeunes se sont opposés aux forces de l'ordre pour le contrôle de barricades dressées la veille sur une grande artère d'un quartier ouest de Brazzaville. Plusieurs grenades lacrymogènes ont été tirées, apparemment sans faire de blessés. Selon une source policière, 4 des 6 dirigeants interpellés pour avoir été vus mercredi avec des militants qui portaient des cocktails Molotov ont été convoqués chez le procureur pour demain. Monsieur Mpuele, coordinateur, a appelé le chef de l'État à apaiser le Congo et à faire en sorte que la force publique se calme pour que la politique reprenne le dessus. Hier soir, Pascal Tsati Mabiala, un des chefs du FROCAD, avait souhaité une insurrection pacifique populaire pour empêcher la tenue du référendum. Et M. Mpuele a appelé une nouvelle fois M. Sassou à renoncer à soumettre au vote un projet de nouvelle constitution qui, selon lui, a profondément divisé les Congolais. Ce projet, vous le savez, de nouvelle constitution a retiré les deux verrous empêchant M. Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en 2016. C'est la limite d'âge et la limite de mandat. Le référendum est donc prévu dimanche. L'opposition a-t-elle les moyens de stopper Sassou Nguesso dans cette aventure? Je suis en ligne depuis Brazzaville avec M. Chomambe Anaclé, c'est le porte-parole du FROCAD. Monsieur Anaclé, bonsoir et merci pour votre disponibilité dans cette émission.
Bonsoir
également à Ngwela Ngusu, notre correspondant. C'est le correspondant de VOA Afrique à Brazzaville. Bonsoir Ngusu.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent ce soir.
Oui, voilà, Ngwela Ngusu, il y a cette divergence sur le nombre de victimes. Est-ce que vous auriez le nombre exact des personnes tuées au cours de ces deux jours de violence au Congo?
Il est en ce moment difficile de faire un bilan des manifestations qui se sont produites à Pointe-Noire et à Brazzaville, parce que le gouvernement, parce que d'abord les établissements sanitaires à Pointe-Noire et à Brazzaville ne communiquent pas de bilan. Ce matin, par exemple, nous nous sommes rendus à l'hôpital de base de Makelele. L'hôpital de base de Makelele se trouve dans le sud de Brazzaville, donc la zone tampon où se déroulent les manifestations. Et on espérait que là-bas, on pouvait trouver des éléments pouvant confirmer le bilan. Malheureusement, aujourd'hui, le personnel manque à cet établissement hospitalier, donc il n'y a pratiquement personne. Le gouvernement, donc, avance son bilan, 4 morts et une dizaine de blessés, alors que l'opposition, aujourd'hui, nous parlait d'une vingtaine de morts et de nombreux blessés.
Ngwela Ngusu, quelle est la situation actuelle en ce moment ? Ou depuis quelques heures?
Ce soir, il faut dire que le calme est revenu à Brazzaville. Les patrouilles de la police et de l'armée, notamment les bérets noirs, sont observées dans la ville. Et la ville qui s'est réveillée sous un soubresaut, une effervescence ce matin. Les jeunes tentaient de remettre les Tag au château d'eau, donc à Makelikili et à Bakongo, ensuite en Filou, donc du côté de l'aéroport à la base. Et ils se sont donc heurtés à la police qui était venue pour démanteler ces barricades. Donc entre 10h et midi, il y a eu des échauffourées et la tension est depuis la fin de l'après-midi, tout est calme à Brazzaville. Mais comme vous le savez, les responsables de l'opposition gardent leurs militants en alerte et la force publique de l'autre côté est toujours debout. Donc ça peut toujours dégénérer, on sait, à n'importe quelle occasion.
Mmh. Est-ce que demain, le calme qui prévaut depuis ce soir, est-ce que demain, les contestations vont-elles reprendre ou la situation semble être maîtrisée par les forces publiques?
Non, tout est possible, hein, parce que la déclaration faite en début d'après-midi par Paul-Marie Collet, qui est le coordonnateur du FROCAD, donc l'une des plateformes aujourd'hui qui conduit ce mouvement de désobéissance civile, donc a appelé la force publique à se retirer afin que les jeunes qui manifestent également se retirent. Vous voyez bien que Paul-Marie Collet n'a pas dit à ses militants, directement à leurs partisans, de se retirer, mais qu'ils restaient en place et qu'ils attendaient plutôt que la force publique se retire d'abord pour qu'eux également puissent se retirer. Donc les dépositions tirent sur la corde. Et en plus, on le sait aujourd'hui que le 23 octobre prochain, donc le vendredi, le dernier jour de campagne référendaire, l'opposition également a prévu organiser une manifestation à Brazzaville, donc un meeting. Ce qui veut dire que la journée de demain, on peut également assister à la reprise des barrières, à la reprise des barricades. Un jeune nous disait ce matin, présent à Brazzaville, que la gendarmerie, il y avait une espèce d'accord avec la gendarmerie qui permettait aux manifestants de manifester sans faire des casses, sans casser les choses, sans piller. Donc, mais c'est la police aujourd'hui qui démantèle un peu tout cela. Donc, si la gendarmerie reste en place, je crois que les jeunes pourront continuer à manifester pacifiquement comme le souhaite leur responsable.
Mmh. Nguela Ngoussou, quelles sont les informations dans le reste du pays? Est-ce que il y a des protestations à l'ampleur de Brazzaville?
Oui, peut-être pas à l'ampleur de Brazzaville, mais il faut dire qu'à Pointe-Noire aussi, la situation... ...on a pris de mettre les barricades et brûler les pneus dans les quartiers de Pointe-Noire, notamment dans les fonds Tietje, à Vungu, à Mongonkamba, à Mpaka, donc des zones un peu réputées, contrôlées par l'opposition. Et également dans le sud-ouest, qui sont traditionnellement les bastions de l'opposition. Il y a un responsable de l'opposition, Jean Itadi, qui nous disait que l'autorité politique et administrative avait presque retirée de ces zones dans la Lissoumou, dans le Niari et dans la Bouenza, où les sous-préfets, les maires des districts et les préfets ne se font plus voir, en fait, qui ont perdu de l'autorité. Mais dans un contexte pratiquement de chaos, c'est toujours difficile de vérifier, de confirmer toutes les informations.
Mmh. Merci Nguela Ngoussou pour toutes ces précisions. Je dois vous libérer. Vous souhaitez bonne nuit pour continuer à suivre, à décortiquer la situation demain matin pour VOA Afrique. Et Monsieur Tshomambe, Anaclé, il y a eu des arrestations aujourd'hui, disons des brèves interpellations. Comment vous avez appris cela? Comment vous analysez cette brève interpellation?
Bien. En fait, le problème était simple parce que la plupart des leaders politiques se trouvaient au siège de l'UPADES à l'entrée du quartier Diata. Lorsque les affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes ont éclaté. Ils n'étaient pas loin de là. Et les forces de l'ordre ont commencé à balancer les cocktails Molotov, les grenades lacrymogènes. Et puis, les leaders de l'opposition se sont portés volontaires pour aller calmer le jeu. Donc, ils se sont présentés devant les forces de l'ordre pour les inviter à cesser de balancer les grenades lacrymogènes. Et puis, ont demandé aux jeunes de rester tranquilles, de rester calmes. Alors, lorsqu'ils ont fini de le faire, il y a un autre groupe de policiers qui a surgi pour connaître l'identité des gens qui étaient là. Les autres les ont présentés comme étant les principaux leaders de l'opposition. Alors, ils ont dit non, si ce sont des leaders, c'est eux qui incitent les jeunes à faire des manifestations, donc on doit les prendre. Et c'est à ce moment-là qu'ils les ont parqués dans un véhicule, dans leur bus qui était à côté, et puis les ont amenés à la direction générale de la police. Après audition, ils avaient obtenu un accord pour qu'on puisse les libérer. Mais, entre-temps, le procureur avait demandé qu'on l'attende, et il est venu peut-être 2 heures après, et c'est en ce moment-là que le procureur leur a signifié l'intention de les déférer à la DGST. Et puis, je pense que à partir de là, ils se sont rendus compte qu'ils mettaient de l'huile sur le feu, et ils ont décidé de libérer ces leaders, mais il semblerait que certains ont été invités à être entendus demain devant le procureur de la République. Voilà un peu donc en gros ce qui s'est passé ce matin.
Et quelle est la lecture que vous faites à cette relaxation, disons rapide, et aussi à cette convocation de demain? Est-ce que pour vous c'est de l'intimidation ou c'est un aveu, disons, d'impuissance par rapport à la résistance qui a commencé depuis 2 jours?
Bon, depuis un moment, on a constaté que le pouvoir cherche un incident pour justifier l'arrestation des leaders de l'opposition, ça c'est sûr. Ça a commencé depuis Pointe-Noire, vous avez constaté vous-même que c'est un policier qui a ouvert les feux et on décide d'arrêter les leaders de l'opposition alors que le policier n'est pas sous le contrôle des leaders de l'opposition. Alors, heureusement que les militants, les jeunes ont prêté main forte et ont réussi à libérer donc les leaders de l'opposition. Alors, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Donc, on veut monter une affaire pour mettre ça sur le dos des leaders de l'opposition afin de justifier leur arrestation. C'est simple. C'est la méthode classique. Ils procèdent toujours de la même manière. Sinon, en fait, vous pensez vous-même que les leaders de l'opposition sont en mesure de fabriquer les cocktails, le moteur, pour donner aux jeunes afin qu'ils fassent le banditisme. Ce n'est pas possible. Alors donc voilà un peu le climat dans lequel nous vivons. Donc c'est un climat de suspicion, c'est un climat de peur, c'est un climat de manipulation, tout simplement pour saboter la démocratie.
Monsieur Tshomambe, avant que je ne reçoive nos auditeurs qui nous attendent en ligne, est-ce que le référendum de dimanche va avoir lieu ou l'opposition a des moyens de l'empêcher?
Bon, je pense que nous avions pris une option claire. Pour nous, ce référendum n'a aucun sens. Je crois que nous avons invité à la désobéissance civile. Je pense que le moment est venu pour que chaque Congolais prenne ses responsabilités face au destin de la nation, parce que le pays ne peut pas être dirigé de cette façon. Nous sommes en plein 21e siècle et nous avions donné beaucoup d'espoir à notre jeune démocratie dans les années 92. Et nous voyons que depuis un moment, c'est le revirement, c'est une dégradation générale de la situation. Il y a comme une forme rampante de remise en cause de la démocratie dans notre pays. Donc chacun doit mesurer les conséquences et prendre ses responsabilités.
Mmh. Quelle est votre réaction par rapport à la déclaration du président français Hollande qui a dit que le président Sassou a le droit de consulter son peuple à travers un référendum?
Bon, j'ai beaucoup de respect pour le président français. Je crois que c'est un chef d'État étranger. Il ne m'appartient pas de commenter ses décisions. Tout ce que je note, c'est que au mois de novembre de l'année dernière, il avait appelé au respect de l'ordre constitutionnel. Bon, maintenant, il pense un peu le contraire, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout état de cause, nous, au niveau du FOCAD, on n'a pas encore pris la décision, je ne suis qu'un porte-parole. Donc j'attends que notre mouvement s'exprime là-dessus pour que nous puissions vous faire connaître notre point de vue.
Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il est déconnecté de la réalité?
Bon, ben je note tout simplement cette évolution. Est-ce qu'il s'était trompé au mois de novembre? Est-ce que c'est maintenant qu'il se trompe? Je crois que c'est lui seul qui peut le dire. Mais sinon, ce qui est constant, c'est qu'il y a une évolution de la position de la France sur cette question.
Restez en ligne, on va recevoir nos auditeurs. Il y aura des commentaires ou des questions. Vous allez donc dire un mot sur les commentaires de nos auditeurs. On commence par Tierno Omar Diallo. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Vous êtes à Conakry.
Bonsoir, la
Vira. Mmh, vous êtes à
oui,
Conakry.
Je suis à Conakry. Oui.
Votre commentaire.
Ok, je commencerai pour marquer ma solidarité au peuple congolais. Je suis convaincu que les opposants seuls ne pourront jamais stopper le projet de référendum de M. Sassou. C'est la société civile congolaise qui doit se lever maintenant là pour accompagner les opposants pour stopper ce référendum. Sinon, les opposants seuls ne pourront jamais le faire parce que le président Sassou fait partie l'un des plus grands, je ne dis pas les dictateurs, mais les présidents qui sont très, très, très mûrs, qui sont longtemps restés au pouvoir, sont à tous les moyens pour conserver leur pouvoir. Vous comprenez ça? C'est très inquiétant pour le peuple congolais. Parce que la société civile, je n'ai pas trop entendu les SAS et les sociétés civiles qui doivent demander de mettre Sassou de stopper le référendum. C'est très inquiétant. Nous ne voulons pas la violence. Il y a eu trop de victimes. Trop de victimes au Congo.
Oui, Tierno, reste en ligne. On va poser cette question à M. Tshomambe. Monsieur Tshomambe, est-ce que la société civile vous suit ou se solidarise avec vous pour manifester cette protestation?
Oui, la vérité est que notre société civile est divisée en deux. Il y a une partie qui soutient le projet du référendum, et puis il y a une autre qui est avec nous, qui se bat pour le respect de l'ordre constitutionnel. Alors, on vous a toujours dit que le Congo souffre d'une déficience au niveau de la société civile. Nous n'avons pas encore réussi, parce que le problème, c'est que la plupart des gens qui se présentent comme étant la société civile sont justement les dignitaires du parti au pouvoir. Alors, vous comprenez, dans ce cadre-là, on ne peut pas avoir une société civile libre et responsable qui puisse s'exprimer face aux problèmes qui se posent à la nation.
Mmh. Tierno, vous avez entendu la réponse. Quel est votre commentaire sur les propos du président français?
Oui, là, je suis vraiment désolé pour M. Hollande. malgré que c'est des grandes puissances étrangères, mais en tant que président français, comme ils savent que c'est lui en France, il ne peut pas demander le peuple de s'exprimer par rapport à la modification de la Constitution française. Il ne devrait pas encourager cette action pour juste faire ça parce qu'il est ami ou bien il n'est pas ami avec certains opposants. Il est pour le président Sassou. Ça, c'est très inquiétant quand les puissances étrangères sont en train d'encourager la dictature dans le continent. Nous sommes très inquiets, franchement. Je l'appelle au calme et à la retenue. Je demande les opposants de faire recours à la société civile. C'est le cas burkinabé. Vous avez compris comment c'était passé au Burkina. Ce n'est pas seulement les opposants qui ont pu déloger M. Compaoré à Kouachiam. Vous voyez, vu la situation de Kourouziza à Burundi, il est en train de diriger le pays à main de fer. Alors le cas burundais, ça ressemble un peu au cas des Congolais. C'est mon inquiétude.
Merci pour votre contribution, Tierno. On va recevoir Ousmane Barry. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir à votre invité.
Oui, votre commentaire.
Merci. Je suis convaincu que le peuple du Congo peut sortir victorieux. Parce que l'armée la plus puissante au monde, c'est le peuple. Et pour ça, il ne faut pas compter sur une société civile divisée. J'ai entendu votre invité tout de suite.
Oui.
Maintenant, l'opposition à la peine sur la planche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner vers ces jeunes-là. La majeure partie de ces jeunes qui se manifestent aujourd'hui au Congo, c'est des jeunes qui se sont nés sur le magistère de M. Sungesso. Parce que c'est des jeunes âgés de 18 à 30 ans. Il a fait 32 ans de pouvoir. Il faut de proposer un discours franc en le demandant. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu comme ça. Il faut vous lever comme un seul homme pour bâtir votre nation et pour empêcher la dictature si vous voulez un lendemain meilleur. C'est comme ça le Burkina Faso a réussi. Et les leaders politiques, ils se sont impliqués. Ils ont dit à la population, écoutez, il n'y a pas un homme providentiel. L'avenir de ce pays-là vous appartient. C'est vous qui allez décider qui va vous diriger et qu'est-ce qui va se passer dans votre pays. La majeure partie, c'est les jeunes qui se sont levés. Mais si les opposants congolais se laissent faire, ils regardent la société civile, ils comptent sur ceci, cela, sachez que c'est voué à l'échec. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur eux et la population qui les accorde la confiance. Et s'ils traînent le pied jusqu'à ce qu'ils perdent la confiance des peuples, ça fait que c'est voué à l'échec. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Lorsque M. Macky Sall a proposé ce qui ne convenait pas à l'opposition et le peuple burkinabé, ils se sont dit, net, on ne va pas laisser passer. Et j'exhorte vraiment l'opposition congolaise de répondre franchement à M. François Hollande, en lui disant, écoutez, je suis désolé, mais ce que vous avez préparé, ça ne peut pas passer. Il y a un adage français qui dit, on passe le fer au moment qu'il le saute. Quand on laisse jusqu'à ce que le froid dit, c'est peine perdue. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé. J'écoutais la dernière fois l'ex-président français, mais ce n'est pas Sarkozy. Il disait, la France a toujours soutenu les dictateurs avant de soutenir les primés. Et Charles de Gaulle disait avant, la France n'a pas des amis, la France n'a que des intérêts. Et si c'est M. Sungesso qui défend, qui donne la France son intérêt, ça c'est que forcément, il va soutenir M. Sungesso. Aujourd'hui, je pense que trop, c'est trop. L'Afrique est trop souffert. Hier, j'étais très remonté. Lorsque j'ai entendu votre invité, qui comptait sur la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale existe? J'ai dit, elle n'existe pas. Elle défend son intérêt pour alimenter leur économie, pour créer de l'emploi. Et là, malheureusement, les présidents africains, les dirigeants africains, et ils ne se sont pas souciés de construire leur pays et créer d'emplois et garantir la sécurité. Et prendre les ressources africaines pour donner les Occidentaux, les gens-là, les aides de se maintenir au pouvoir. 32 ans, c'est trop. Pourquoi M. Hollande, au nom de quoi il va dire, M. Sungesso doit consulter le peuple. Le peuple s'est déjà exprimé. Le peuple a dit qu'ils ne veulent pas. La question que j'ai envie de poser de votre invité, c'est de le demander, est-ce que les jours de référendum dimanche, ils vont rester bras croisés en regardant Sungesso entériner ce qu'il est en train